Voilà. Je suis. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va? Parce qu'on me dit toujours que j'articule pas et que je parle pas assez fort. Voilà. J'étais vraiment particulièrement touché, reconnaissant au Seigneur parce qu'en fait, sincèrement, les dons spirituels qu'il y a eu ce matin et même les interventions, ont touché plusieurs points extrêmement précis de mon message de ce matin, et c'est vraiment pas très vague, c'est vraiment très très précis. Alors on va y venir tout de suite. Vous savez que on dit que lorsqu'on découvre Dieu, c'est pas une religion qu'on trouve, on n'adhère pas à une nouvelle religion, mais c'est une relation qu'on découvre avec Dieu. Bien souvent, je ne sais pas si vous étiez athée avant ou quoi, mais souvent nous avions notre religion. Et moi, ma religion que j'avais n'était pas une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, nous avons découvert, c'est une relation d'amour. Une relation d'amour. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Aimer Dieu de tout son cœur. Pourquoi et comment ?» Alors, on va venir tout de suite dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 4. Savez-vous que l'Ancien Testament, qui est quand même une très grosse partie de la Bible, parle de l'amour de Dieu, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et le livre du Deutéronome est un livre ça veut dire « seconde loi Deutéronome hein, », et c'est un peu un nouvel exposé de la loi de Moïse, de la loi de Dieu par Moïse, que Moïse a apporté au peuple quelques mois avant sa mort et avant l'entrée dans le pays promis. Et je ne sais pas si vous savez, mais Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert, trois fois, il a résisté en disant « il est écrit ». Et à chaque fois qu'il a dit « il est écrit », c'était des versets extraits du livre du Deutéronome. Alors, aimer Dieu, un commandement. Deutéronome, chapitre 6, verset 4, nous dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ce passage, avec le chapitre 11, versets 13 à 21, constitue, pour ceux qui s'intéressent, le fameux schéma Israël pour les Juifs pratiquants. Ça, schéma Israël, ça veut dire « écoute Israël ». Et je ne sais pas si vous savez, mais les Juifs pieux, actuellement, récitent ce schéma Israël deux fois par jour, le matin et le soir. Et bien sûr, Jésus connaissait parfaitement ce passage parce que Jésus était juif. Et il a appris le schéma Israël. Et ce verset m'intéresse parce que c'est la première mention explicite de l'amour de quelqu'un pour Dieu dans la Bible. Je ne dis pas qu'avant ce passage, on ne parle pas de l'amour de quelqu'un pour Dieu dans la Bible. Avant, on en parle aussi, bien sûr. Mais c'est la première mention explicite, précise, qui parle de aimer Dieu. Bien sûr, d'autres ont aimé Dieu avant cela. Et ce passage a été cité par Jésus-Christ en Matthieu 22, 37, on y viendra tout à l'heure, et vous l'avez aussi en Marc 12, 30, et il a dit que c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements, alors qu'il n'est pas dans les 10 commandements. Et un pharisien, un homme religieux de l'époque de Jésus, a cité aussi ce passage en Luc 10, 37. Et Jésus a dit que ce commandement est le suivant, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est dans les Lévitiques, résume tous les commandements de Dieu envers l'homme. Jésus a dit même précisément, de ces deux commandements, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent la loi et le prophète et les prophètes. Pour lui, plaire à Dieu, ce n'est pas faire quelque chose, mais c'est l'aimer. Vous savez que Et je viens à ce deuxième plan, deuxième point. Pourquoi aimer Dieu? Pourquoi aimer Dieu? Vous savez que l'être humain a été créé à l'image de Dieu avec cette faculté d'aimer. Je ne sais pas si c'est quand même quelque chose qui distingue l'être humain. L'amour vers Dieu. Vous Deutéronome chapitre 4, verset 37, nous dit « Dieu a aimé tes pères et il a choisi la postérité après eux. » Il a choisi, vous pouvez l'afficher ? Deutéronome chapitre 4, verset 37. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. C'est la première mention explicite de l'amour de Dieu pour son peuple dans la Bible. Donc, pourquoi aimer Dieu ? Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé au peuple. Il lui dit qu'il a aimé et il lui dit qu'il a délivré de l'esclavage en Égypte. Et il a prouvé son amour en le délivrant de son esclavage. Et donc, Dieu dit, la réponse spontanée du croyant, même de l'Ancien Testament, c'est une reconnaissance, une gratitude envers Dieu, parce que Dieu l'a aimé le premier et qu'il lui a prouvé en faisant quelque chose de concret pour lui, en délivrant le peuple d'Israël d'Égypte. C'est une réponse concrète. Et la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, le Dieu d'amour est le même dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va y venir tout à l'heure. Le Nouveau Testament met en évidence l'amour de Dieu d'une façon bien plus grande, vous le savez. Si Dieu s'était révélé comme un Dieu d'amour dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, le Fils du Père, le Fils de Dieu, on a découvert, premièrement, même si c'était sous-entendu, mais explicitement, la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 8, dit que Dieu est amour. La nature profonde de Dieu, c'est l'amour. C'est un verset révolutionnaire. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait une seule religion dans le monde qui dit que Dieu est amour. Vous avez peut-être certaines religions qui disent que Dieu aime les êtres humains dans certaines conditions, sous certaines conditions, mais la révélation suprême, c'est que Dieu est amour et qu'il a prouvé en envoyant son fils Jésus. Et la première épître de Jean au chapitre 3 et au verset 16, vous connaissez Jean 3,16 ? Et est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16 ? Ah, c'est bien. Nous avons connu l'amour, 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pour les frères. Et Romains chapitre 5, verset 8 nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà. Donc la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est l'envoi de son fils Jésus mourir pour nous, qui est venu mourir pour nous, pauvres pécheurs. Aimer Dieu de tout notre être. C'est là mon deuxième point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on pourrait prendre, enfin on va le prendre, je vous le dis, vous savez, j'ai dit au début que Jésus a cité ce passage, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Dans Matthieu, chapitre 22, verset 37, Jésus dit, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dans Marc 12, 30, il est dit, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, qui était utilisée par l'Église primitive, ça disait « Tu aimeras Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. » Rassurez-vous, on ne va pas faire un cours de grammaire. Mais en hébreu, et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le cœur, c'est le siège des émotions, de la pensée, et en grec, c'est quasiment la même chose. En hébreu, le mot « âme » désigne la personne entière, y compris le corps, la personne entière. Dans le grec, le mot « âme » a une grande variété de sens. Pourquoi je vous dis tout ça ? Pas pour vous faire croire que je sais parler hébreu, que je sais parler grec. Je ne sais pas parler hébreu, je ne sais pas parler grec. J'ai du mal à parler français déjà. Mais pour vous dire ça, c'est qu'il est inutile de décortiquer les mots un par un en disant toutes tes forces, ta pensée, ta. En fait, ce verset dit simplement, tu aimeras ton Dieu avec la totalité de ton être. Que ça soit ta volonté, que ça soit ton intelligence, que ça soit tes émotions, que ça soit tes sentiments et que ça soit tes actions. Dieu dit, mon amour et ton amour doit être exclusif, entier. Et ça va être le point central de mon message ce matin, en fait. Un amour entier. Et j'ai pris pour cela, avant d'arriver vraiment au centre de cette affaire-là, deux exemples dans l'Ancien Testament qui concernent le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son intégrité. Un qui a bien commencé et qui a mal fini dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas vous poser la question qui c'est, parce qu'il y en a plein, malheureusement. Mais il y en a un qui est très célèbre, qui s'appelle Salomon. Salomon. Vous connaissez le roi Salomon ? Tout le monde connaît le roi Salomon, enfin, connaît de nom. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé avec Salomon. Salomon avait tout pour réussir. Tout. Qu'est-ce que vous auriez répondu si Dieu vous avait dit « Mais demande de moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Réfléchissez. Et le roi David, quelques mois avant sa mort, a donné un conseil à son fils Salomon. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28 et au verset 9, il lui dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Connais le Dieu de ton père. Ça veut dire qu'il ne reste pas juste le Dieu de ton père, qu'il ne reste pas le Dieu de David, qu'il soit ton Dieu. Connais le Dieu de ton père. Ça, c'est une petite parenthèse, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est une petite parenthèse pour parfois les enfants de chrétiens. C'est bien d'avoir le Dieu de son père, le Dieu de sa mère, mais quand c'est son Dieu, c'est mieux. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs, ça veut dire qu'il connaît au plus profond, et pénètre tous les desseins, ça veut dire tous les desseins, ça veut dire tous les buts, tous les motifs et toutes les pensées. Pourquoi j'ai pris ce passage ? Parce que « Connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué » en hébreu, un cœur dévoué se traduit plus précisément par un cœur sans réserve, un cœur sincère. Littéralement, un cœur intact. Ce mot en hébreu, c'est « salem ». Et c'est l'idée d'un cœur tout entier. Et David en rajoute une couche. Un peu après, et vous avez ça dans le même livre, au chapitre 29 et au verset 19, David était un homme de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu entendait les prières de David ? Ouais, il entendait les prières de David. Quelle chance il avait, Salomon ! Il a un père qui est un homme de Dieu, malgré ses défaillances, malgré ses lacunes. C'est un homme de Dieu. Et David, avant de mourir, il dit « Dieu, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué, ça veut dire entier, à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois. » Et enfin, troisième couche, Salomon a Dieu qui lui apparaît visiblement. Salomon a Dieu qui lui apparaît visiblement. Une fois, deux fois, et à la deuxième fois, au premier livre des Rois, chapitre 9, verset 4, merci Emmanuel, Dieu lui dit, « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, etc. » Donc voici quelqu'un qui avait tout pour réussir. Il a les précieux conseils de son père. Il a la prière de son père. Il a Dieu qui l'avertit personnellement par révélation. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, petit à petit, dévie, tombe et finit lamentablement. Il était Salomon, mais ça je ne parle pas pour faire de l'histoire. Vous avez bien compris qu'on ne parle pas ce matin pour faire... je ne suis pas là pour vous raconter des contes de fées sur Salomon. Vous avez bien compris qu'on parle pour nous ce matin. Salomon... Il avait plein de capacités. Il était très sage, très sage. Il avait une sagesse donnée par Dieu. Il avait des dons donnés par Dieu. il avait des choses extraordinaires. Et ça, ça nous parle à nous. Vous comprenez de quoi je parle ce matin? Vous voyez ce que je veux dire? Dieu peut me bénir richement, peut me donner toutes sortes, je peux même vous donner un don de guérison, faire des miracles, tout ce que vous voulez en fait, je ne sais pas. Dieu peut se servir de vous pour gagner des multitudes d'âmes, peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? J'adapte, hein? Mais Salomon avait cette sagesse de Dieu, mais il n'avait pas cette piété, cette relation, cet amour brûlant que David avait pour Dieu. David a fait d'énormes gaffes, il a commis l'adultère, il a commis un meurtre, mais c'était un homme de Dieu. Et il a fini sa vie en prophétisant sur son lit de mort. Et le Messie s'appelle le fils de David, le descendant de David. Donc, Salomon, c'est un homme qui était plein de sagesse, qui a donné plein de bons conseils aux autres par le livre des Proverbes, mais qui ne les a pas mis en pratique lui-même. Il a oublié de se prêcher à lui-même. Et on aurait pu dire de Salomon, faites ce qu'il dit, mais ne faites pas ce qu'il fait. Quand il lit dans le chapitre 5 du livre des Proverbes, il dit, méfie-toi de la femme étrangère. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça, ce n'est pas un jugement sur ceux qui parlent et qui ne font pas? Frères et sœurs, ne parlons pas, ne parlons peu, et j'ai besoin de le dire à moi, mais soyons, agissons, soyons cohérents pour que le monde ne se moque pas de l'Église et des chrétiens. Je suis certain que si nous étions plus sérieux dans notre vie chrétienne, il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient convertis. Si nous étions à la hauteur de ce que nous disons, 50% de ce que nous disons, si nous le mettions en pratique, il y aurait des foules de gens qui se convertiraient, et je parle pour moi. On n'est pas là pour s'amuser ce matin, on n'est pas là pour raconter des contes de fées, je ne suis pas là pour vous faire des cours d'histoire biblique, on est là pour avancer avec le Seigneur, vous êtes d'accord? Un deuxième exemple, un dernier. Il me plaît beaucoup celui-là, il me touche beaucoup. Il me touche parce que c'est le roi Josias. Le roi Josias, c'est le contraire de Salomon. Le roi Josias, il avait tout pour rater sa vie. Il avait un père mauvais et il avait un grand-père, c'était des rois hein, d'Israël. Il avait un grand-père, c'était le pire de tous. On aurait pu l'appeler Hitler. Il a fait des choses abominables. Son grand-père. Le peuple était dans. Il a entraîné tout le peuple d'Israël dans le mal. La tradition juive dit que le roi Manassé, le grand-père de Josias, c'est lui qui a fait tuer Ésaïe le prophète en le faisant scier dans un tronc d'arbre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça dit sa réputation. Et le roi Josias, le v'là roi, a 8 ans, roi, jeune. Et la Bible dit qu'à 8 ans, il fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. À 8 ans. Peut-être que simplement, je me suis posé la question, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je me suis dit, peut-être c'est grâce à sa mère. Il avait une mère. On dit, sa mère s'appelait Jedida. Moi, je me suis dit, quand même, si à 8 ans, il commence à faire droit ce qu'il est. Important, que ce soit le père ou la mère, même quand on est seul. Là, je parle pour ceux qui élèvent leurs enfants tout seuls. Vous ne pouvez pas imaginer la marque que vous pouvez donner à vos enfants, même quand vous êtes seul. Ma mère était chrétienne, elle était une femme de Dieu, mon père n'était pas chrétien. Si vous saviez la marque de Dieu qu'il y a eu dans toute notre famille, vous ne pouvez même pas imaginer. Une personne, un parent, à contre-courant, à 26 ans, il restaure le temple, il restaure le vrai culte de Dieu. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que le deuxième roi, deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 25, nous dit... Avec Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, et nous revenons là au sujet, et de toute sa force, ça ne vous rappelle rien? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, il est revenu à Dieu selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. C'est la seule personne de l'Ancien Testament dont il est dit qu'il est revenu à Dieu de tout son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Mais c'est la seule personne dont il est dit, c'est explicite comme ça. En tout cas, c'est le seul roi qui a fait ça à ce point-là. À ce point-là, je me dis bien, il y en a eu d'autres. Son retour à Dieu n'était pas lié à un intérêt personnel. C'est ça qui fait un peu son charme. Il n'avait rien à gagner. Rien. Le peuple d'Israël était condamné. Dieu avait dit qu'à cause de Manassé, le peuple d'Israël partirait en déportation à Babylone. Et la Bible dit que malgré tout ce qui s'est passé, Dieu n'est pas revenu sur sa colère. Il n'avait pas un intérêt personnel. Mais il avait juste un amour pour Dieu. Et même si c'est sa mère qui l'a influencé, il avait quelque chose de personnel. Parce que la Bible dit que lorsque il est revenu à Dieu, il a travaillé à contre-courant. Est-ce que vous savez ce que c'est de travailler à contre-courant ? De prier quand vous êtes seul à prier dans votre famille. D'être honnête quand tout le monde est malhonnête autour de vous. Vous savez, je sais très bien que je parle à des gens qui savent de quoi je parle. Vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est un homme qui était à contre-courant, le roi Josias. Le peuple n'avait pas du tout envie de revenir à Dieu. La Bible dit qu'ils sont revenus, mais quand vous lisez le prophète Jérémie, vous verrez que Dieu dit que le peuple était menteur. Ils ont fait un faux retour. Ils ont suivi, comme c'est quand il y a un roi qui, à l'époque, Clovis, roi des Francs, est devenu catholique et tout le monde est devenu catholique. Voilà, c'est pareil. Josias, roi, il va à Dieu, le peuple suit. Mais en fait, le cœur n'y était pas. Lui, il avait le cœur, mais le peuple n'y était pas. Pour ça, je vous dis ça parce qu'il était à contre-courant, il a eu le courage de revenir à Dieu de tout son cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire revenir à Dieu ? Ça veut dire, de tout son cœur, ça veut dire peut-être revenir à la Bible, réouvrir ma Bible. Est-ce que ta Bible a quelques couches de poussière chez toi ? Je ne sais pas. Revenir à une vraie relation avec Dieu. Peut-être. Vous dites, mais vous parlez à des chrétiens. Ça veut dire peut-être obéir sans discuter quand Dieu nous montre un problème à régler. Ça veut dire éliminer les compromis. Les idoles, qu'est-ce que c'est une idole ? Tout ce qui passe avant Dieu dans ma vie. Je voudrais continuer. J'espère que personne ne dort. Je voudrais faire un petit focus rapidement, vraiment, sur le psaume 86, verset 11. Il dit « Dieu, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Pourquoi j'ai pris ce verset ? Tout simplement parce qu'en fait, dans le texte original, ça veut dire, Dieu, cet homme qui prie, il dit, quand il dit « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom », littéralement, il dit « Rends un mon cœur. Fais que mon cœur soit entier. » Rends un mon cœur. C'est le seul usage de ce mot dans l'Ancien Testament. Il dit, Dieu, fais que mon cœur soit un, soit entier pour toi. Et le contraire du cœur un, c'est quoi ? C'est un cœur double. Voilà. Que Dieu me donne d'avoir un cœur entier pour lui, un amour exclusif pour lui, complet pour lui. Et un deuxième passage sur lequel on va s'attarder un peu plus, c'est Luc chapitre 11, versets 34 à 36. Jésus dit quelque chose d'un peu difficile à comprendre, c'est un genre de parabole. Vous savez, ce que Jésus disait, parfois, ce n'était pas toujours évident pour les disciples, on a besoin du Saint-Esprit. Et il disait, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé et n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Voilà. Alors Jésus, pour faire clair, pour faire synthétique, emploie une genre de comparaison et il dit que de la même façon que si mon œil est en bonne santé, eh bien, ça va quand même beaucoup mieux. Je vois un paysage, je m'émerveille. Je vois un obstacle, j'évite de me casser la figure. Donc, vous êtes d'accord que si j'ai un œil en bonne santé, ça a plein de conséquences sur toute ma vie. Et bien sûr, le contraire est vrai aussi. Et de la même façon, dit Jésus, voilà, ben, ton œil, c'est ton cœur. Ton cœur, s'il est en bonne santé, et pourquoi je prie ce terme ? Parce que en grec, quand il dit en bon état, ça veut dire un œil simple, unique. D'ailleurs, les versions anglaises traduisent comme ça. Et ça veut dire un cœur qui est entier, qui est sans dissimulation, qui est sincère. Et Jésus dit que si ton cœur spirituellement n'est pas entier pour Dieu, tu peux avoir toute la connaissance de la Bible. Tu peux connaître la meilleure des doctrines. Tu peux travailler pour Dieu. Tu peux faire plein de choses. Mais en fait, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne vois pas clair spirituellement et tu es dans les ténèbres. Tu ne vois pas clair. Et tu te dis, mais pourquoi ? Parfois, on cherche, on ne comprend pas, parce qu'il y a certaines personnes, on ne comprend pas comment ils ont pu s'égarer spirituellement alors qu'ils sont intelligents, qu'ils connaissent bien la Bible, tout ça. En fait, Jésus dit que la source du problème vient du cœur. Tu peux avoir la meilleure des formations théologiques, si ton cœur n'est pas entier pour Dieu, il va se passer quelque chose, tu ne vas pas voir clair, et tu ne vas pas voir clair du tout. Dernier point, amen. Amen. Vous êtes content? Dernier point. Comment aimer Dieu de tout mon être? Comment? Ah, c'est bien, Patrick, tu nous dis, voilà, il faut. Moi, j'y arrive pas. Vous y arrivez, vous? Jérémie 31. Versets 31 à 33, avait annoncé la nouvelle alliance. C'est le seul passage de l'Ancien Testament qui parle de la nouvelle alliance, clairement comme ça. Il y en a d'autres. Hein. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir des pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et Dieu nous dit qu'il annonce, et il y a un autre passage qui est beaucoup moins connu, Moïse, avant de mourir, dans le chapitre Deutéronome, chapitre 30, verset 6, dit au peuple d'Israël, il a prévu, Moïse était prophète, il avait prévu que le peuple s'égarerait, il avait prévu que le peuple partirait en déportation, et il dit, quand vous serez partis, comme le fils prodigue, quand vous serez éloignés de Dieu, un jour vous reviendrez, ce n'est pas encore fait, et il a dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, ça veut dire écrira dans ton cœur, et le cœur de ta postérité c'est la descendance, hein, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. En fait, Dieu dit que ce que je ne peux pas faire, si je veux le faire, il va le faire pour moi. Est-ce que ce programme vous intéresse? Je répète, ce que je ne peux pas faire quand je veux obéir à Dieu, si je suis d'accord pour le faire, il va le faire pour moi. C'est pas formidable ça? Et ça, c'est avec la venue de Jésus. Jésus, en mourant sur la croix, nous a, lorsque nous venons à lui, nous a communiqué une nouvelle nature. Il nous a donné une nouvelle identité. Il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour envers Dieu devient spontané en réponse à son amour. On est d'accord. Et le Seigneur fait de nous vraiment de nouvelles créatures. Alors, je me suis posé la question pour conclure, est-ce que ce commandement, parce que vous savez, on n'aime pas le mot commandement, on n'aime pas. Parce que nous, particulièrement les évangéliques, la grâce. Pas de commandement, libre. Moi, l'instinct, le cœur. Est-ce qu'il y a un commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton être et tu es valable. Oui, oui. C'est vrai que j'ai un amour spontané pour Dieu. J'aime Dieu en réponse à son amour. Mais vous êtes d'accord que mon amour peut se refroidir, peut descendre. Parfois, mon amour peut avoir un amour concurrent. J'aime Dieu, mais j'aime aussi ça. Et après, à la fin, c'est j'aime ça et j'aime aussi Dieu. Quand c'est j'aime Dieu et j'aime aussi ça, ça va, on a le droit d'aimer Dieu et d'aimer plein de trucs. Vous êtes d'accord? Vous avez le droit d'aimer Dieu et d'aimer Je prends un exemple purement au hasard. Vous avez le droit d'aimer Dieu et d'aimer faire de la moto. J'ai horreur de ça, ça me fait peur. Je ne sais pas pourquoi je dis cet exemple. Mais si vous aimez la moto et qu'elle vous prend votre temps pour Dieu, c'est pas bon. Alors je ne dis pas de mettre la moto à la casse, mais il faut rectifier les priorités. Donc voilà, pourquoi Dieu dit « tu aimeras » parce que le Seigneur me dit « mais tu as toujours des progrès à faire ». Et même si avec Dieu tout va bien, voilà, tout va bien, je n'ai pas d'idole, je marche avec Dieu, tout baigne, je me sens bien, est-ce que j'aime Dieu assez ? Est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que Patrick, tu aimes Dieu assez ? Mais moi, je crois que non. Je crois que non. Parce que si j'aimais Dieu assez, j'aimerais mon prochain beaucoup plus que je ne l'aime. Et si j'aimais mon prochain beaucoup plus que je l'aime, ça se verrait beaucoup plus dans les résultats. Donc j'en conclus que si je fais mon auto-diagnostic, si je puis me permettre ainsi, ça c'est parce que ma femme a amené le véhicule au contrôle technique, j'avais quelques mois de retard. Ne me dénoncez pas. Parfois, on a besoin aussi d'un contrôle technique. On a besoin de contrôle technique. Et là, moi, je fais le diag et je dis, mais Seigneur, non, l'amour, déjà, et qui c'est mon modèle ? C'est Jésus. C'est pas Salomon, c'est pas Josias, c'est pas Terre. C'est Jésus. Jésus qui s'est donné à la croix pour moi, qui a manifesté un tel amour, une telle grâce pour moi. Il a tout donné. Et quand je manque d'amour, quand mon cœur se refroidit, qu'est-ce que je fais ? Je reviens à la croix. Je reviens à la croix. Pas à la croix comme un machin superstitieux avec une croix en bois. Non, je ne me prosterne pas devant un crucifix. Mais je regarde Jésus mourir à la croix. Je me remémore son sacrifice. Et je dis, Seigneur, si tu as tout donné, fais à nouveau brûler mon cœur pour toi. Et oui, je termine par juste une citation d'un homme de Dieu qui s'appelle, un vieil homme de Dieu du fin 19e, Frédéric Meyer, quand il a fait une méditation sur Jude 21, qui dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Je fais résumer juste, j'ai résumé ce qu'il disait. Il disait « Plus nous avançons dans la vie, moins nous nous soucions de parler de notre amour pour Dieu et plus nous parlons de l'amour de Dieu pour nous. » Je répète, je crois que je n'ai pas été clair. Il dit « Plus nous avançons dans la vie, moins nous nous soucions de parler de notre amour pour Dieu et plus nous parlons de l'amour de Dieu pour nous. Nous réalisons que tout amour authentique pour Dieu n'est que la conséquence de son grand amour pour nous. L'amour de Dieu est une chose, ce que nous ressentons est une autre chose. Nous devons nous souvenir que l'amour de Dieu ne dépend en aucun cas de notre conscience de cet amour. Nos sentiments ne sont pas la jauge de notre amour. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, Dieu t'aime. » Seigneur, merci parce que tu es là. Et nous sommes là pour aller plus loin avec toi, pour devenir meilleurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta grâce. Nous te rendons grâce pour la croix de Golgotha, là où tu as donné ton suprême amour pour nous et tu veux encore renouveler cet amour pour toi et pour notre prochain. Amen.